Alors, pendant un temps, et je ne pense pas que ça va s'arrêter là, mais pendant un temps, on a vraiment mis l'accent sur la louange et la prière. Et c'est important parce que ce que nous cherchons en tant qu'Église, c'est une transformation. Nous venons ici parce que c'est un peu comme on a vu la semaine dernière, c'est comme un oasis. Nous venons avoir du oui, vous pouvez chercher l'internet, si vous l'avez déjà fait, je m'en doute, hein, mais vous pouvez trouver les meilleures prédications en ligne possibles avec une belle production et tout. C'est super. Mais vous savez bien que YouTube ne prie pas pour vous, comme nous prions pour vous. De la même manière aussi, vous pouvez écouter à n'importe quel moment beaucoup de louanges, vraiment par des musiciens de classe mondiale. Et pourtant, ça n'a pas la même chose, la même dynamique que lorsque vous êtes là et le Saint-Esprit est en train d'agir dans nos cœurs. Et voilà pour une des raisons, il y a de multiples raisons pourquoi nous venons. Et justement, nous venons pour rencontrer Dieu. Parce qu'il est là. Là où deux, trois sont rassemblés, Jésus a promis d'être là. Et ce qui est important dans ce temps, et d'ailleurs dans toutes nos recherches du Saint-Esprit, c'est de ne pas adopter une attitude individualiste. Ce qui est malheureusement trop facile. Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs. Et ça se manifeste souvent dans une attitude que, oui, c'est moi et l'esprit, et je fais ça par l'esprit, et on mène justement une vie, en réalité, égoïste, en cherchant un peu, en suivant les vagues, en faisant ce qu'on veut au nom du Saint-Esprit. Alors que ce que le Saint-Esprit doit faire en nous, c'est nous tisser les uns les autres au même moment qu'il tisse notre cœur à celui de Dieu. Vous voyez, il y a une unité qui doit se faire, nous avec Dieu, nous les uns avec les autres. Cet individualisme, même s'il nous sauve individuellement, n'est pas toujours bon. Donc, c'est pour cela que j'ai mis une petite pause en Ésaïe. D'ailleurs, le passage va nous parler des idoles. Toujours une bonne leçon. On va reprendre ça tout à l'heure. Un autre jour, je veux dire. Mais aujourd'hui, nous commençons cette transition nécessaire parce que nous avançons vers un projet d'église. Mais avant, il faut que nous revenions sur cette idée que nous sommes une église, une communauté. Et tout ce que ça veut dire, une famille même. Et nous parlerons aujourd'hui de comment Dieu veut tisser ensemble, nous unir ensemble, nous lier ensemble. Et comment il agit dans l'Église. Et il le fait par son Saint-Esprit. Il le fait par ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Alors, ce qu'on va voir, c'est d'abord que ces choses se font en fonction de la grâce qu'il nous a accordée. C'est tout par la grâce. Deuxième chose, c'est une petite liste des dons. Pas exhaustive, mais une petite liste des dons. Donc, avec ça en tête, on revient sur notre passage. D'abord, parlons de cette grâce accordée. Et c'est justement ce qu'on a dans ces premières cinq versets de Romains. Ça vaut la peine de le relire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ? Ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives ou déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc dans ce petit paragraphe, ce que nous avons, c'est d'abord une nouvelle mentalité qui nous est offerte par cette grâce de Dieu. Ensuite, cette mentalité ne doit pas rester ancrée, mais en fait, ça doit produire en nous un nouveau regard sur nous-mêmes. Et puis, ça débouche vraiment sur un sentiment, une appartenance très concrète, nouvelle d'ailleurs. Mais en ce qui concerne cette mentalité, c'est tout basé sur la grâce de Dieu. Lorsqu'il dit « je vous exhorte », donc ça fait partie de tout ce qu'il a dit avant. La grâce de Dieu qui nous a sauvés, le fait que Dieu, dans son immense miséricorde, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque chacun suivait sa propre voie, ben nous voyons toutes et un peu partout dans cette ville, ne serait-ce que dans notre propre vie, les petites inclinations et les tendances vers les choses que nous savons que nous ne devons pas faire. Les choses pour lesquelles Jésus-Christ, il est mort. Il est mort pour nos péchés. Mais Dieu, dans cette grâce immense, en fait, en voyant l'œuvre immense et merveilleuse qu'il voulait faire par la fin et les suites des temps pour créer toute une nouvelle famille en Christ, Dieu qui a envoyé son Fils dans la chair humaine afin de nous sauver, c'est la grâce. Nous n'avons rien mérité, mais à cause de cela, donc, il veut nous faire entrer dans sa famille, qui devrait avoir un impact tellement puissant que tout change. Notre mentalité doit changer et doit être transformée de plus en plus que nous marchons avec le Seigneur. Nous devrions ne plus vivre pour nous-mêmes. C'est difficile en tant que Parisien, hein, en tant que Francilien, parce que dans cette vie, et dans toutes les grandes villes, hein, c'est les mêmes choses, hein, où il faut savoir se battre pour survivre. On est vraiment dans un, même dans le métro, hein, c'est un labyrinthe, et parfois on se sent comme un rat donc, qui fait son petite course. Mais vous êtes plus qu'un rat, évidemment, hein, vous êtes choisi, aimé par Dieu. Et ce n'est pas de cette mentalité humaine, ce n'est pas un monde comme Nietzsche a décrit où ce n'est que le plus fort qui s'emporte sur les autres, qui écrase les autres, ce n'est pas celui-là qui vaincre. Jésus nous a montré un autre chemin où il n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà le royaume dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce sacrifice, donc, est un sacrifice vivant. C'est pas morte sur un autel, mais il est vivant, comme Christ est vivant. Alors nous aussi, nous sommes appelés à donner notre vie. Voilà le changement. Ce sacrifice est même un culte. C'est notre façon de louer. Parfois, on limite l'idée de la louange à des chansons. Mais c'est beaucoup plus, hein. C'est donner votre vie, même au moment de votre réveil. C'est aussi, bien sûr, une prière que nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre. C'est une louange quand notre vie est répandue à terre comme cela. C'est ce qui est voulu. C'est une vie qui est transformée, louange, notamment parlant de notre intelligence. Notre intelligence pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est parfait? C'est Dieu qui veut vous parler et vous transformer afin que vous ayez justement ces réflexes dans votre réflexion et la manière dont vous voyez ce monde. Pour que vous ne soyez pas des gens juste pris un peu sur le coup ou que vous soyez menés par la vie et que par le Saint-Esprit, vous êtes plus que vainqueurs. Notre mentalité. Et qu'est-ce que ça doit faire pour nous? Ça doit changer notre regard sur soi-même. Paul dit ne pas avoir des prétentions, ne pas avoir un regard de trop haut, trop exaltant sur soi-même. Bon, là aussi, les Parisiens, les Franciliens ont On est les rois à ça, n'est-ce pas? Enfin, combien de fois est-ce que quelqu'un vous a demandé « Vous habitez où ?» Et vous dites « Paris ». Vous aurez pu dire « En France ?» Mais vous dites « Quoi ?» Enfin, ça montre beaucoup, n'est-ce pas? Et ce n'est pas bien non plus. Oui, c'est bien d'aimer sa ville. Il faut justement prier pour sa ville et prier pour la prospérité de la ville parce que notre vie en dépend. Oui, on est bien d'accord. Mais il y a l'autre côté de cela. Quand tout va bien, même quand on est vraiment à notre mieux, c'est toujours grâce à Dieu. C'est toujours grâce à lui et ce qu'il a fait en nous. Comment il nous a transformés et cette immense grâce qu'il a fait pour que nous puissions vivre ici, maintenant, à ce moment. Enfin, franchement, c'est une immense bénédiction qu'il nous a fait. Cette ville est dure, elle est aussi remplie de pas mal d'incroyants et aussi pas mal de difficultés sont devant nous. Oui, on comprend tout cela, mais c'est une grâce quand même. Et tout est donné par sa grâce. Il nous a choisis pour ce moment. Il nous a mis là. Et ça doit changer la façon dont on se voit. C'est-à-dire que notre regard sur nous-mêmes, Paul, il dit, intéressant, il parle aux Romains, aussi une ville comme la nôtre, capitale, puissante, et qui se démarque des autres. Donc, c'est la même chose que nous puissions aussi voir dans notre ville. Mais il y a un autre travers aussi. On peut être trop négatif sur nous-mêmes. Et parfois, on entend des voix, une certaine négativité qui peut être très destructeur dans notre vie. La façon dont nous regardons dans le miroir, si vous voulez, doit être tempérée par la réalité spirituelle. C'est-à-dire que vous êtes, si vous êtes en Christ, vous êtes choisi par le Dieu d'éternité qui a donné sa vie pour vous, qui vous aime et que vous êtes son enfant bien-aimé. Donc, le regard qu'on porte sur nous-mêmes ne doit pas être ni exalté, ni trop dépréciatif, mais juste en Christ. Et puis, tout ça doit créer en nous un nouveau sens d'appartenance. Parce que on s'appartient à lui. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Cette nouvelle mentalité nous fait comprendre que nous faisons partie d'un corps. Attention, nous ne perdons pas notre identité, ni notre personne. Et c'est une nouvelle appartenance qui est cohésive, qui est unie, qui est vivante. Tel un corps, telle une famille. Et parfois, on vient des bonnes familles et on a un sens de cela, mais parfois, non. Le père était absent, ou peut-être il y avait de la maladie dans la famille, ou plein d'autres choses, divorce parfois, plein d'autres choses, ou même des parents travailleurs qui ont tout fait, mais qui étaient absents. Il y a plein de scénarios qui font que parfois on ne comprend pas cette idée. Mais c'est pour cela que nous avons la Bible. Hein. Chacun, donc, pour nous aider à marcher et à vivre cette nouvelle réalité, chacun a été investi par le Saint-Esprit un don. Certains, talentueux que vous êtes, vous en avez plusieurs, mais au moins un. Et c'est une bénédiction pour l'Église. Oui, vous en bénéficiez, mais le but principal, ce n'est pas pour vous. C'est votre participation pour la collectivité, pour l'Église. Et donc, pour qu'elle fonctionne comme il faut que nous ne perdions jamais cette idée qu'elle est issue de la grâce. Et donc, Paul, il nous donne des exemples, des listes. Et nous allons voir 7 aujourd'hui. Mais dans les semaines à venir, on peut aussi revisiter 1 Corinthiens ou Éphésiens, où il y en a d'autres aussi, justement pour voir comment ça marche. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, les dons. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui vous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit, on accorde avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec simplicité. Et celui qui préside avec empressement. Celui qui exhorte, exerce la miséricorde avec joie. Donc, tous ces dons sont distribués selon le Saint-Esprit. En fait, le mot « don », c'est le mot « charismata ». Ça veut dire littéralement des choses de la grâce. Donc, c'est tout issu de la grâce. Alors, on va regarder chaque point par chaque point. Il y en a 7. Et dans la 7 qu'on va voir aujourd'hui, je vous invite à prier, demander, Seigneur, est-ce moi? D'abord, quand on parle de la prophétie, ce n'est pas la même chose qu'un prophète. Ce n'est pas un office de prophète. Très important. Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un peut avoir une parole prophétique une fois dans sa vie. Ou quelquefois, parce qu'il a reçu un don. C'est le Saint-Esprit qui le donne, et il le donne quand il veut et comment il veut. Donc, il faut rester ouvert. N'oubliez pas que nous avons vu en Nombre que Moïse a dit que tous prophétisent. Paul aussi, il dit, et on va parler de ça peut-être la semaine prochaine en 1 Corinthiens 14. Donc, ce n'est pas l'office de prophète comme on pense à Ésaïe, notre prophète, que nous sommes en train d'étudier. Ce n'est pas la même chose. C'est le don de la prophétie qui est en accord avec la foi. Pas la foi de vous-même. C'est-à-dire, ce n'est pas, il faut juste avoir beaucoup de foi et puis vous pouvez prophétiser. Non. C'est en accord avec la foi, avec un grand F, la foi chrétienne. Donc, ce que vous dites, si elle n'est pas en accord avec la doctrine chrétienne, en fait, cette parole que vous dites n'est pas prophétique. Attention, tout le monde peut se tromper. Et ça ne fait pas de vous un faux prophète, tout comme si vous dites la chose bien, ça ne fait pas de vous un prophète, voyez ? Ou une prophétesse. Ce n'est pas forcément prédictif. Ça peut prédire, mais pas forcément. Ce qu'elle est à la base, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait envers un autre chrétien, mais aussi envers un non-chrétien. C'est le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Donc ce don peut être exercé à votre travail parmi les non-chrétiens et peut-être même on a besoin, tout comme dans la vie, ou quand il y a de l'injustice ou des choses qui ne sont pas justes. On a besoin justement d'une parole prophétique. C'est une proclamation, mais c'est surtout, et c'est là où on rejoint tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est un rappel de la présence du Dieu vivant. Surtout pour un peuple qui a oublié cela. Donc, cette parole est quelque chose qui peut s'exercer lors d'un culte. Par exemple, nous sommes en train de chanter. Et puis, vous avez une parole dans votre cœur. Et vous savez que, et ben c'est selon la foi, peut-être c'est même un verset, et vous avez ça à partager. Entre les chansons, si vous voulez dire, ça c'est une parole prophétique. Ou bien, vous pouvez aussi avoir peut-être une parole ou quelque chose à dire pour encourager quelqu'un d'autre. Ou je ne sais pas pourquoi, mais ce verset, j'aimerais envoyer à Hachem. Donc, je l'envoie. Ça, c'est aussi quelque chose comme cela. Il y a beaucoup de flexibilité avec ce don-là. Ça peut s'exercer pendant vos conversations. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ça peut se faire par texte. Ça peut se faire par plein de moyens. Ce qui est important pour nous, c'est de rester ouvert et de savoir écouter le Seigneur, lorsqu'il nous donne quelque chose à dire à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, c'est le service, ou le diaconat, ici. Là encore, attention, pas à confondre avec l'office, si vous voulez, de diaconat. Mais, c'est un don de service, à l'image de Jésus. Jésus qui, la nuit avant sa crucifixion, a enlever ses vêtements, qui a pris une serviette autour de son taille et puis qui a commencé à laver les pieds de tous ses apôtres. C'est un service. En fait, lui qui nous a montré une manière de servir à cette manière-là. Attention, ce n'est pas le fait d'être serviable, mais c'est un don donné par le Saint-Esprit. Pour accomplir son œuvre. C'est lorsque le Seigneur équipe quelqu'un spirituellement pour servir d'une manière qui rende gloire à Dieu. Donc, c'est lorsque le Seigneur vous équipe pour servir quelqu'un d'autre pour lui rendre gloire. Ça peut être justement quelque chose de caritatif lorsque, par exemple, il y a des œuvres qui sont au service d'autres populations pour creuser un puits, par exemple. C'est une œuvre spirituelle. Dieu a pourvu, Dieu a fait tout cela. Ça peut être justement, lorsque nous sommes ici, il y a quelqu'un donc qui sait aider, qui ne serait-ce que mettre les choses en place, qui sert, mais que tout service qui se fasse dans l'Église, et l'Église doit servir les uns les autres, lors des cultes et les autres choses, tout cela doit se faire, pas juste parce que je suis serviable, mais parce que je sers le Seigneur, que ce soit donc quelque chose de spirituel, que ce soit quelqu'un qui empile les chaises, ou quelqu'un donc qui balaie la salle. Toutes ces choses doivent se faire spirituellement, mais ça se voit vraiment dans sa puissance lorsque nous commençons à servir les uns les autres de manière tout à fait inattendue, parce que nous savons que nous le pouvons. Ça peut être justement quelqu'un qui donne, je ne sais pas, des cours de russe à des enfants, si c'est fait dans le Seigneur. Quelqu'un qui fait quelque chose et qui est tout à fait dans l'extraordinaire. Par exemple, Je vous donne juste un exemple de quelqu'un parmi nous. Justement, un jour, Natacha est venue en semaine et qui a tout à fait organisé la salle des enfants. Et tous les enfants en ont bénéficié. Voilà, justement, dans quelle forme ça pourrait être. L'enseignement. L'enseignement est aussi très intéressant parce que ce n'est pas le fait d'être prof. C'est en réalité l'idée que vous pouvez expliquer des choses spirituelles à quelqu'un, il comprenne. Oui, que vous pouvez expliquer les choses de Dieu, l'évangile, ce n'est pas encore le don d'évangélisation, mais ça va dans ce sens, ça peut aller dans ce sens. C'est quelqu'un donc qui a des idées claires sur la doctrine, sur la théologie même. Mais ce n'est pas juste un don qui doit rester stagnant. En réalité, tous les dons doivent être exercés. Il faut ranimer cette flamme que vous avez. C'est pour cela qu'il est bien de faire l'inventoire de votre vie pour voir où est-ce que Dieu m'a utilisé, justement pour que je ranime cette flamme et que j'avance dans les manières que Dieu m'a utilisé dans le passé pour que je le sache. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous donner autre chose dans le futur, n'est-ce pas? Donc, pour l'enseignement, c'est nécessaire à tous les niveaux. Oui, je fais ce que je fais, c'est peut-être le plus évident, mais c'est partout. Ça arrive aussi lorsque vous appelez ou vous parlez à un de vos amis et quelqu'un qui est en difficulté ou peut-être qui ne comprend pas une chose et puis vous avez une parole du Seigneur qui explique les choses, un enseignement, vous enseignez, c'est aussi un enseignement et puis ils comprennent. Alors, ça, c'est un don qui peut se faire sans instruction, donc c'est un don de l'esprit. Mais si vous remarquez que vous avez ce don, il faut vous instruire. Il faut avancer et apprendre à correctement diviser la parole, comme il est dit en Timothée, à bien puiser dans la parole de Dieu. Parce que si vous avez un don d'enseignement, votre source sera toujours la parole de Dieu. Nous avons tous une source. Et c'est là justement où nous dévions de pas mal de mouvements dits charismatiques. Parce que notre source doit être la parole de Dieu. Point. Bien sûr, la théologie, les choses qui sont développées, qui sont aussi issues de cette même source, oui, c'est différent. Par exemple, qu'une source philosophique, une source scientifique, une source idéologique, plein d'autres choses. Et donc, que l'enseignement s'accorde toujours à ce qui est écrit. Sans tordre le sens, sans manipuler le sens, donc avec tout ce que vous avez en vous, avec autant de justesse que vous possédez, que cet enseignement va dans le sens de la parole. Enseignement. Ensuite, il y a l'encouragement. Alors, ce mot, en fait, pour l'encouragement ou exhortation, en réalité, c'est le mot paraclé, qui veut dire quelqu'un qui va à côté d'eux. Et voilà pourquoi on a ces deux idées. Encouragement et exhortation, en fait, les deux vont ensemble. C'est plutôt accompagner quelqu'un. C'est la relation d'aide. Ce n'est pas celui qui, peut-être, aime un peu trop dire des choses difficiles. C'est pas cassant. Si vous trouvez un plaisir à dire la chose cassant ou peut-être trop directe, attention, ça ne vient pas du Saint-Esprit. De la même manière, ce n'est pas quelqu'un qui déteste dire des choses difficiles, qui veut toujours dire ce qui est bon, toujours ce qui est joli, ou enfin, qui ne veut jamais contrarier les autres. Ça, ce n'est pas l'encouragement non plus. Donc, c'est un don spirituel qui aide justement les gens et qui accompagne les gens. En fait, c'est un don, pour parler des gens dans l'église, que Becky possède. Et c'est pour cela qu'elle elle fait justement pas mal dans la relation d'elle. C'était tout naturel, ça a été depuis longtemps. Mais c'est justement un équilibre spirituellement pour encadrer, accompagner. C'est dire peut-être la chose difficile avec amour, ou épauler quelqu'un qui souffre. La générosité. Attention avec celui-ci, parce que je pense que nous savons tous, et si vous ne le savez pas, c'est peut-être le moment à savoir, que tout chrétien est quand même censé à donner de l'argent à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de vous. Non, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Et c'est pour cela que si vous n'arrivez pas à donner avec un cœur joyeux, ou si vous êtes vraiment contré, enfin, non, Dieu ne réjouit pas dans ce genre de don. Par contre, pourquoi est-ce que tout chrétien doit justement donner de leur argent à l'Église? D'abord, c'est parce que nous sommes tous pêcheurs et nous voulons tous utiliser les dons de Dieu pour notre bien, pour notre loisir, pour notre vanité, pour plein de choses. Et donc, il est important que, tout comme nous célébrons le culte le premier jour de la semaine, le dimanche, le meilleur jour, on le donne à Dieu comme une offrande. De la même manière, nous donnons notre argent comme une louange pour justement lui adorer dans ce sens et lui faire confiance. C'est très pratique, le Seigneur. Comme la connaissance de Dieu est très pratique. Ça prend tout notre être. Il y a aussi une autre raison très pratique. C'est tout simplement parce que, comme vous avez un loyer, l'Église a un loyer. Comme vous avez des factures, l'Église aussi a des factures. Et donc, ce n'est pas les États-Unis qui doivent payer nos factures. Ce n'est pas le gouvernement français qui va payer nos factures, n'est-ce pas? C'est à nous, puisqu'on est tous des adultes responsables. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Mais la générosité, ça, c'est autre chose. C'est un don spirituel. C'est quelqu'un, à la fois peut-être, qui donne de l'argent, mais aussi de son temps. Quelqu'un, donc, qui a un don spirituel très généreux, un esprit très généreux, donné par le Seigneur pour aider les autres. Un bon exemple dans cette église, c'est Michel, qui est très généreux dans tout ce qu'il fait. Le piège, si c'est vous, le piège, c'est de trop donner, de s'épuiser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention si vous avez cela. Donc, si vous avez ce don, soyez généreux, soyez sage et soyez généreux. La gérance est un autre don. La gérance est aussi un mot très intéressant. Donc, c'est proestémé en grec, et c'est un mot qui a plusieurs sens. D'abord, ça peut vouloir dire s'intéresser, donc s'intéresser à. Ça peut aussi vouloir dire se pré- préoccupé de, ou bien prendre soin de, donner de l'aide à, gérer, diriger, ministrer. Donc c'est assez large comme don. Et justement, on a besoin de tous ces facteurs dans l'Église. Les gens qui se préoccupent des autres et qui prennent soin des autres, qui s'intéressent des autres. Mais il y a aussi un sens qui donne une certaine organisation spirituelle. Des gens qui voient tout naturellement comment, sur des choses pratiques et logistiques, comment les choses doivent fonctionner. Et l'Église a vraiment besoin de ça à tous les niveaux. Justement, quelqu'un parmi nous qui fait ça, on dirait même les yeux fermés, c'est Max. Il a un don d'administration, d'organisation. Attention, c'est pas parce qu'on vient chez vous et on regarde sur vos étagères et on peut voir que tous vos livres sont alphabétisés et que tout est bien rangé par couleur et tout, que vous avez ce don. Hein. C'est pas forcément ça. C'est peut-être un signe. Peut-être aussi un signe de mania, mais bon, qui sait. Mais d'ailleurs, je trouvais ça un peu marrant. J.K. Chesterton disait, il n'y a personne, c'est pas le poète qui est fou, c'est souvent le mathématicien. Fermons ma parenthèse. Le don de l'organisation est si nécessaire dans l'Église, le don d'administration est si nécessaire dans l'Église. Mais il faut que, si vous avez cela, que vous utilisez, en fait, le texte dit, soyez zélé. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, hein, il y a le mythe qui est parfois la réalité. On peut être tellement organisé qu'on s'endort quelque part, n'est-ce pas? Ou quand les choses sont bien organisées, on sait exactement comment les choses vont suivre. Puis on est contrarié s'il y a la moindre chose qui ne va pas. Il faut un peu de souplesse. Il faut être zélé pour le Seigneur. C'est très nécessaire. Parce que c'est un don spirituel. Mais malheur à l'Église qui soit entièrement équipée des organisateurs. Nous avons besoin, pour l'équilibrer, du numéro 7. Ceux qui ont la miséricorde, la compassion. Parce que les deux doivent marcher ensemble, les actes de miséricorde. C'est un appel à tous ceux, vraiment à nous tous. Si on n'a pas de compassion les uns envers les autres, on va se déchirer tous. Mais il y a quand même un don de compassion qui va un peu plus loin. Et quelqu'un qui dans notre assemblée qui le manifeste plus souvent, c'est quelqu'un comme Mounir. C'est pas juste que il est compatissant, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui peut voir d'un côté compatissant même quelqu'un qui est en flagrant délit et même que tout le monde est prêt justement à jeter à la porte. Qu'il y a ce don de compassion à l'image de Jésus qui nous fait réfléchir et parfois nous convaincre de ne pas être aussi dur. Donc c'est un don du Saint-Esprit dont nous avons besoin, qui donne l'équilibre à l'Assemblée. Donc, voilà les sept, hein. La prophétie, le service, l'enseignement, l'exhortation, la générosité, l'administration, la miséricorde. Peut-être, en conclusion, vous avez remarqué qu'il y a un des dons qui est peut-être le don par excellence dans le milieu charismatique. On n'a pas évoqué le parler en langue. Bien sûr, on va en parler la semaine prochaine. Et c'est fait exprès parce que je trouve trop souvent pour nous, si toute notre idée sur les dons du Saint-Esprit se résume au simple parler en langue, on se limite nous-mêmes. Et je pense que Dieu veut faire autre chose en nous que cela. elle a sa place à parler en langue, et on va en parler la semaine prochaine. Mais il y a beaucoup de choses qui sont, je dirais, d'urgence autour dans cette église, dans toutes les églises, et surtout pour nous en préparation pour nos projets et juste pour vivre en tant qu'église. Hein. Donc c'est différent dans tout cela, la différence entre une église online et une église réelle. L'église à la maison, l'église online ne demande rien de vous. Vous êtes plutôt consommateur. Au maximum, vous donnez votre cotisation pour entretenir le ministère. Dans une église réelle, locale, c'est tout autre chose. On a besoin de vous. Vous avez été équipés. Et quand nous allons tous utiliser nos dons, il y a cette fragrance, cette saveur de Jésus-Christ partout, à tous les niveaux. Et les choses magnifiques se passent. C'est une famille. Une famille où nous devons tous prendre notre place. C'est une communauté spirituelle et réunie par celui qui a donné sa vie pour nous-mêmes. Ensuite, il y a une transformation tellement forte que nous parlons d'une nouvelle mentalité. Ce n'est pas exalté, on a une meilleure idée sur qui nous sommes et une meilleure appartenance. Donc les dons de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en œuvre de ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est Dieu. Troisième personne de Dieu qui travaille en vous. Voilà pourquoi il ne faut pas attrister, mais il faut marcher selon l'Esprit. Donc, votre devoir, et c'est là que je vois que j'ai dépassé l'œuvre, mais devoir pour vous, cette semaine, priez, faites l'inventoire de votre vie, demandez, quel est le don que tu m'as investi? Et puis, essayez. Même si vous vous trompez. Parce que c'est comme ça que nous apprenons à discerner sa voix. Mais justement, essayez. Et comme ça, vous allez vous découvrir en Christ.